La Père Philippe de Maistre, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Voilà, vous êtes un nouvel intervenant sur l'antenne et vous allez cette année intervenir une fois par mois, l'Évangile selon Saint Marc. Alors peut-être Père, pour commencer, pour que les auditeurs puissent un peu vous connaître, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots?
Eh bien, je suis le Père Philippe de Maistre du diocèse de Paris, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe. Voilà, je suis très heureux de participer à cette émission. Je suis encore plus heureux, et je vous expliquerai pourquoi, qu'on m'ait demandé de prendre l'évangile de Saint-Marc.
Alors justement, Père, je vais vous laisser donc commencer. Je crois aujourd'hui que vous voulez axer davantage cet entretien sur l'apôtre lui-même, hein, sur Marc.
Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a une chose qui est fascinante déjà d'emblée dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a quatre évangiles, vous le savez, sans compter les évangiles apocryphes. C'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, quatre photographies de la même personne, parce que l'évangile, au fond, c'est un portrait de Jésus-Christ. Mais dans tout portrait, le portraitiste intervient, et donc il a un certain regard subjectif sur une personne, en l'occurrence Jésus-Christ. Et l'Église a, vous le savez, l'Église a toujours gardé cette polyphonie, cette pluralité de regards, comme s'il était important que nous ayons accès à la personne de Jésus à travers les regards croisés de Jean, de Marc, de Matthieu, de Luc, sans compter ceux qui nous sont donnés par Paul ou par Pierre, par ceux qui ont écrit aussi des épîtres. Alors c'est vrai que c'est une première question, pourquoi l'Église a-t-elle gardé? Au fond, elle aurait pu faire une œuvre, elle aurait pu essayer de faire un fondu enchaîné ou un copier-coller de ces quatre évangiles pour une seule version. En fait, c'est ce que font tous ceux qui font œuvre de propagande. Il y a une version autorisée et puis on essaye d'arrondir toutes les différences. Parce que c'est vrai que le Christ, que la personne de Jésus que nous présente Marc, eh bien, n'est pas tout à fait la même. Si, c'est le même, vous l'avez compris, mais l'insistance, l'éclairage qui nous est donné n'est pas tout à fait le même que celui de Matthieu. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, pourquoi cette pluralité? Ben, vous le savez, et puis d'autres se chargeront de vous accompagner avec Matthieu, ou avec Jean, ou avec Luc, mais chacun a sa propre approche, sa propre histoire, et chacun des évangélistes s'adresse au départ à un public qui n'est pas le même. Matthieu est un juif qui est très attentif à l'enracinement de Jésus dans l'histoire du peuple hébreu. Et sa manière de nous présenter la vie de Jésus va souvent insister sur le fait que Jésus est celui qui accomplit les Écritures, celui qui accomplit les promesses faites en Israël. Jésus est souvent présenté comme le nouveau Moïse, vous savez, celui qui monte sur la montagne, qui s'assied et qui enseigne. Et qui a cette phrase, ce refrain, « On vous a dit et moi je vous dis ». Et on, eh bien, c'est celui qui a transmis la première fois sur la montagne les commandements divins, c'est-à-dire Moïse. Et Jésus est le nouveau Moïse qui vient accomplir la promesse qui a été faite à Israël à travers notamment Moïse et beaucoup d'autres. Alors Luc est intéressant puisque Luc, eh bien, a une approche très complémentaire pour nous, parce que Luc lui-même n'est témoin oculaire de la vie de Jésus. Il n'a pas participé, il n'a pas connu Jésus de son vivant. Mais Luc a été converti par la prédication vraisemblablement de Paul. Et Luc vient du monde païen. Luc ne connaissait pas au départ la tradition juive. Donc Luc nous ressemble beaucoup en fait. Luc va essayer de faire une enquête auprès des témoins oculaires, ce qui n'est pas lui-même. Et il va avoir une approche qui parfois peut nous paraître plus parlante parce que nous sommes tous plus ou moins des païens si nous ne sommes pas de la tradition juive au départ. Oui. Jean a une approche complètement différente. Jean est le disciple bien-aimé. Jean écrit vraisemblablement plus tard que les trois autres, que Marc, Matthieu et Luc, que ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Et Jean veut compléter d'une certaine manière ce que les trois autres ont dit très bien. Alors, notre ami Marc, qui est Marc? Bien, Marc, la première chose, c'est que Marc ne fait pas partie du collège des 12 apôtres, contrairement à Matthieu et peut-être à Jean. C'est la première chose. Donc, Marc n'est pas du premier cercle des témoins oculaires de Jésus. Et pourtant, Marc est très proche. Alors, beaucoup ont remarqué, et je pourrais vous le prouver de manière plus rigoureuse en suivant la lettre du texte, que Marc est proche de Pierre. Marc est peut-être le secrétaire de Pierre. On peut le voir en différents endroits dans l'Évangile. Simon-Pierre, le premier des apôtres, le prince des apôtres, Simon-Pierre, eh bien, est souvent mis en scène par l'Évangile de Marc. Mais je voudrais me pencher sur deux petits passages un peu énigmatiques, et si vous avez avec vous votre Bible, eh bien je vous invite à vous diriger directement vers le chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Vous voyez qu'on fait un grand saut, c'est-à-dire qu'on traverse, on saute par-dessus tout le ministère public de Jésus, sur lequel on reviendra, nous reviendrons allègrement. Et nous allons directement au mystère pascal, c'est-à-dire au moment de l'arrestation de Jésus au mont des Oliviers à Gethsémani. Donc nous sommes au chapitre 14 et je vous invite à prendre le verset 43. Vous savez, Jésus est parvenu dans ce domaine appelé Gethsémani. Il demande à trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, de s'éloigner et de l'accompagner. C'est là qu'il commence à vivre son agonie, à ressentir frayeur et angoisse. C'est là qu'il laisse jaillir de son cœur quelques gémissements. « Mon âme est triste à mourir, restez ici éveillé. » À ce temps d'agonie, verset 43, « Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyé par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus, lui dit « Rabbi » et l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Eh bien, c'est ce verset qui m'intéresse. C'est ce mystère de ce jeune homme qui suivait Jésus, dont on nous dit qu'il n'avait pour vêtement qu'un seul drap, qu'on a essayé d'arrêter à ce moment-là, mais qui s'est échappé, et comme on l'attrapait par le drap, eh bien, les poursuivants se sont retrouvés avec le drap dans la main, et le jeune homme est parti tout nu. Alors, vous savez que dans les procédés littéraires de l'époque, il peut y avoir une manière un peu discrète de signer son évangile, de dire « bien, j'étais là, j'ai vu, j'ai assisté ». On pourrait faire un parallèle avec le quatrième évangile, l'évangile de Jean, où il est toujours question du disciple que Jésus aimait, d'un mystérieux disciple qui est là, qui est notamment là au pied de la croix, qui est là tout contre Jésus à la dernière scène, qui est le disciple. Et on sait bien que Jean a signé son évangile. Il a signé son évangile en disant « ce disciple, c'est moi ». Eh bien, beaucoup d'exégètes, je ne l'ai pas inventé, pensent que Marc a signé son évangile de cette manière discrète. Il dit « j'étais là, j'ai assisté à cette scène dramatique. J'étais là au moment où Jésus a été arrêté au mont des Oliviers. J'étais pas très loin ». Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, les trois apôtres que Jésus a emmenés à Gethsémani sont Pierre, Jacques et Jean. Puis, il est revenu vers les autres apôtres, mais vraisemblablement, eh bien, il y avait un cercle plus large Il y avait un jeune homme qui n'était pas très loin de Pierre, puisqu'on nous parle de celui qui tire son épée, qui frappe le serviteur du grand prêtre et lui tranche l'oreille. Les autres évangélistes nous précisent que celui qui frappe de l'épée le serviteur, c'est Pierre. Donc pas très loin de Pierre se trouve un jeune homme qui suivait Jésus. Et au moment où Jésus va être arrêté, au moment où Jésus entre dans sa passion, il est là. Au moment où Jésus va être dépouillé de ses propres vêtements, lui-même part nu aussi. Alors vous conviendrez avec moi qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Alors il faut que nous continuions, si vous voulez bien, notre enquête. Qui est ce jeune homme ? Alors ce qu'il convient de faire dans ces cas-là, eh bien peut-être pour voir plus clair, c'est se demander s'il y a une autre référence dans l'évangile de ce jeune homme. Et je vous avoue qu'en relisant l'évangile, eh bien je n'ai pas été déçu. Je vous invite vous-même à tourner quelques pages et à vous projeter un peu en avant au chapitre 16. Le chapitre 16, c'est le récit de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que nous passons les 3 jours. Nous passons l'arrestation que nous avons lue. Nous passons la condamnation à mort, la comparution devant Caïphe, le grand prêtre, puis devant Pilate, la crucifixion, la mise au tombeau, et nous sommes le premier jour de la semaine. Je vous relis ce passage que nous connaissons bien. Chapitre 16. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disent entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Vous avez bien noté. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, donc à droite du tombeau, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Bien, chers amis, vous voyez que nous avons cette référence à un moment décisif puisque nous sommes au cœur de l'Évangile. Nous sommes dans la première annonce de la victoire du Christ sur la mort. Vous savez que c'est le cœur de l'Évangile. Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, eh bien nous sommes les plus malheureux des hommes parce que tout l'édifice de l'Évangile, notre foi, s'effondre. Hein. Nous oublions parfois que notre foi repose tout entière sur un miracle qui est la résurrection. N'oublions pas que si vous êtes bouddhiste, vous n'avez pas besoin de croire au miracle, même à la réalité de la vie du prince Siddhartha, de Bouddha, puisque en réalité c'est une sagesse qui n'a pas besoin d'être enracinée sur une réalité historique. Si vous êtes musulman, ben, la personne de Mahomet et la réalité de tel ou tel miracle n'est pas décisive pour vivre en musulman. Nous, chrétiens, nous croyons en un événement qui a transformé l'histoire de l'humanité, qui est le fait qu'un homme ait surgi des enfers, un homme a vaincu la mort, comme Moïse a traversé la mer Rouge pour s'établir un jour dans la terre promise, un homme a traversé, a passé, a vécu sa Pâque, et passé de la mort à la vie. Et des gens ont attesté l'avoir vu, avoir touché, avoir contemplé, avoir entendu et avoir reçu cet influx de vie, cette force de vie, cette énergie de vie qui est celle de la résurrection. Donc vous comprenez que le fait que le jeune homme en question n'apparaisse que 2 fois dans l'Évangile, une fois au moment où Jésus se dirige vers sa mort et une fois au moment où il faut témoigner de sa résurrection, eh bien nous comprenons que ce jeune homme a une place toute particulière. En réalité, ce jeune homme, eh bien, j'ose défendre que c'est Marc, et je n'ai pas inventé cela, mais peut-être que plus profondément, si Marc ne se nomme pas lui-même et s'il dit un jeune homme, c'est que à travers sa propre expérience, eh bien, il nous ouvre à une autre expérience. Ce jeune homme qui s'est dépouillé de ses vêtements et ce jeune homme qui a laissé tomber le drap qu'il portait, un certain habit, et qui repart nu, au moment où Jésus se plonge dans sa mort pour rejaillir ensuite et sortir de la mort et revivre, ce jeune homme qu'on retrouvera à la droite du tombeau, non plus nu, mais habillé, revêtu, et revêtu de quel habit? Eh bien, revêtu de blanc. Ce jeune homme ressemble beaucoup à celui ou celle que vous avez eu, peut-être la chance, j'espère, de voir dans la nuit de Pâques. Que se passe-t-il dans la nuit de Pâques? Eh bien, des adultes, si on vit la liturgie pleinement, vous savez que le baptême est un événement baptisé, baptizein en grec, c'est se plonger. Le baptisé, le futur baptisé, va se dépouiller de ses habits. Je souhaite et j'espère que vous avez déjà assisté à un vrai baptême. Je le dis en souriant parce que tout baptême est un vrai baptême et valide, mais la symbolique est pleine, il me semble, quand on vit le baptême dit par immersion totale. J'ai eu la joie l'année dernière d'aller au Jourdain, et puis avec tout un groupe de jeunes adultes, eh bien de vivre symboliquement ce baptême. Ils étaient baptisés, certains se préparaient au baptême, et donc de se plonger tout entier, comme Jésus l'a fait dans le Jourdain, se plonger et faire une immersion totale. Et si vous vous immergez dedans, si on appuie la tête, eh bien, au bout de quelques minutes à la surface, on verra des bulles. On verra des bulles parce que il faudra vous aider à vous relever, parce que vous risquez la mort. Et bien précisément, le baptême, c'est pour nous assimiler à la mort du Christ pour renaître avec lui. Qu'est-ce que ce jeune homme? Ce jeune homme, c'est une personne qui a reçu le baptême. Une personne qui a reçu le baptême et donc qui était et qui est aujourd'hui contemporain de Jésus. Chers amis, il faut que nous disions quelque chose là maintenant d'important. Il y a deux manières d'être témoin de Jésus. Il y a ce qui a été réservé aux apôtres et aux témoins oculaires de la vie de Jésus. Marie-Madeleine, Simon-Pierre, Marc sans doute, et tant d'autres, ont été témoins de la vie terrestre de Jésus de Nazareth. Quelques centaines, quelques milliers de personnes ont pu le rencontrer, le toucher, le voir et l'entendre s'adresser à eux. Ils sont un peu moins nombreux, ceux qui ont vu le Christ ressuscité. Personne n'a vu le Christ ressuscité ER, mais beaucoup l'ont vu ressuscité E accent aigu, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que le même homme qu'ils avaient pu rencontrer et suivre sur les routes de Galilée et à Jérusalem, eh bien, leur apparaissait alors qu'on attestait qu'effectivement il était bien mort sur la croix et qu'il avait été enseveli. Donc il y a le privilège de ceux qui ont été témoins oculaires. Mais il y a vous, chers amis, il y a moi. Au XXIe siècle, nous ne l'avons pas vu, Jésus de Nazareth, le Jésus historique. Et pourtant, c'est peut-être la première grande et belle nouvelle de l'évangile de Saint-Marc. Nous sommes tout aussi contemporains de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ que les témoins oculaires, que nous avons vécu le baptême. Et ce jeune homme, chers amis, c'est nous, c'est vous qui m'écoutez, c'est moi qui suis en train de parler. C'est vous parce qu'un jour, eh bien, soit dans les premières semaines de votre existence, soit beaucoup plus récemment, vous avez dépouillé, vous vous êtes mis à nu. Vous savez que c'est ce qu'on fait quand on fait un baptême par immersion totale. Si c'est un petit enfant, eh bien, on le déshabille complètement et en principe, il entre dans l'église avec des habits qui ne sont pas blancs, justement. Ces habits représentent le vieil homme. Ces habits représentent l'homme ancien, celui dont nous parle presque à toutes les pages saint Paul dans ses épîtres. Et il va se dépouiller, il va être complètement nu, il va se plonger dans les eaux. Vous savez que dans les baptistères anciens, on se plongeait tout entier dans l'eau. Il y a encore des églises aujourd'hui, souvent dans la tradition orientale, des églises dans lesquelles le baptistère est une vraie piscine. Et on descend dedans, par trois marches. Pourquoi trois marches? Précisément parce que, eh bien, c'est le symbole des trois jours. Jésus meurt le premier jour, le vendredi. Il est enseveli, il vit cet ensevelissement et la descente aux enfers le deuxième jour, le samedi saint. Et le troisième jour, on constate qu'il est ressuscité. En descendant par trois marches, eh bien, en réalité, le catéchumène, le futur baptisé, descend, s'assimile et plonge dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Dans certaines représentations, dans certaines icônes, c'est très beau, on voit au fond de la piscine baptismale une espèce de petit être un petit peu effrayant, une sorte de Gollum pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui représente celui qui doit rester au fond du tombeau, celui qui est mort avec le Christ, et ressort l'homme nouveau. Et en sortant de la piscine, eh bien, on peut dire ce n'est plus moi qui vis, c'est plus le vieux moi qui vit. Il est mort celui-là, le moi pécheur. Il y a deux principes en nous, chers amis. Il y a Adam, c'est l'homme ancien auquel nous avons tous, dont nous sommes tous participants, nous sommes tous descendants d'Adam, et donc nous sommes marqués par le péché des origines. Mais cet être pécheur doit mourir parce que le Christ a pris la malédiction d'Adam, et il s'est plongé, il a pris sur lui le péché, et il l'a fait mourir. Ce vieil homme a été crucifié, nous dit saint Paul, et il a été enseveli pour rester à jamais dans le tombeau, et il est sorti. Et désormais, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus l'ancien moi, c'est Christ qui vit en moi, dira saint Paul dans un cri de joie. Le baptisé, c'est celui qui est passé avec Jésus très réellement, chers amis, pas seulement symboliquement, mais nous disons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire que dans sa passion, Jésus a mis à mort le vieil homme en chacun d'entre nous. Il a pris chacun de nos péchés et il nous a ouvert une vie nouvelle. Donc vous comprenez, chers amis, que Marc nous dit « Bien sûr, j'étais là. Bien sûr, j'étais là. J'étais témoin. » Et c'est en tant que témoin que je vous écris ces quelques mots, ces quelques pages. Nous verrons que l'évangile de Marc est le plus court de tous et on essaiera de voir pourquoi. Je vous écris ces quelques pages à grands traits, de manière assez ferme et saisissante. On verra le style de Marc, il est intéressant aussi. Mais vous êtes aussi témoin. Vous êtes tout aussi témoin que moi parce que vous avez vécu le baptême. Et qu'est-ce qu'un catéchumène baptisé? C'est quelqu'un qui a vécu cette plongée dans la mort de Christ pour ressusciter avec lui. Chers amis, aujourd'hui, ni moi ni vous n'avez vu le Christ ressuscité. Nous n'avons pas partagé le privilège de beaucoup de contemporains de Jésus. Et pourtant, nous pouvons dire que nous avons rencontré Jésus. Parce que par le baptême, nous avons été réellement plongés dans sa mort pour revivre. Et donc que Christ est vivant en nous. Nous avons vu des gens dont la vie a été transformée. Nous avons vu des gens rejeter leur vie d'avant et se convertir, changer de vie. Se convertir, c'est beaucoup plus que d'ailleurs choisir de changer d'habitude. Vous pouvez décider de faire un régime, vous pouvez décider d'abandonner telle ou telle habitude que vous aviez, vous pouvez prendre beaucoup de résolutions, on le fait au début de l'année, mais ce n'est pas un changement de l'être. Dans le baptême, eh bien, nous renaissons, nous vivons à une vie nouvelle. Jean, dans son évangile, le dit de manière saisissante. Vous savez, quand Nicodème s'adresse à lui, et dans ce dialogue un peu mystérieux, eh bien, Jésus tranche en disant « Nul ne peut me suivre s'il ne renaît, s'il ne naît de nouveau, s'il ne naît de l'eau et de l'Esprit-Saint ». Eh bien, chers amis, Marc nous parle en réalité de la vie nouvelle que nous recevons de Jésus. Marc ne nous parle pas seulement de quelque chose que nous n'avons pas vécu et qui nous relaterait. Marc, en réalité, s'adresse à nous, baptisés, ou s'adresse à ceux qui se préparent au baptême pour leur expliquer ce qu'ils ont vécu pour les baptisés ou ce qu'ils s'apprêtent à vivre. C'est-à-dire mourir avec le Christ, se mettre d'abord à sa suite pour les disciples, et puis aller avec lui à Jérusalem sacramentellement, descendre au tombeau, après que notre vieil homme ait été crucifié pour renaître à une vie nouvelle. L'évangile de Marc, en fait, est l'évangile du baptême. On pourrait dire que c'est toute une catéchèse baptismale. J'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est important de comprendre et d'entrer dans cette clé-là. Et à cette lumière, eh bien, vous comprenez beaucoup de choses qui peuvent dérouter un peu quand nous lisons l'évangile de Marc. Soyez honnête, si vous avez fait cet exercice ou si vous le faites dans les jours à venir, eh bien, peut-être que vous allez trouver qu'il est un peu sec, il est un peu aride. Hein. Si vous lisez l'évangile de Luc, eh bien, vous avez la joie de commencer par les évangiles de l'enfance. Vous avez la joie d'entrer dans la chambre de la Vierge Marie à Nazareth, d'entendre la salutation de l'ange, d'accompagner Marie dans le temps de l'attente de cette grossesse et puis cette joie partagée avec Élisabeth. Vous êtes aussi témoin de la naissance virginale, lumineuse, dans la nuit de Bethléem. Rien de tout cela chez notre ami Marc. Ça commence de manière assez aride par un récit du baptême de Jésus au Jourdain qui lance, et tout nous est dit, ce qui est développé par les autres évangélistes, parfois en un chapitre entier, nous est résumé en 2-3 versets par Marc. Et Marc va se concentrer sur la vie publique de Jésus, chacun des événements étant réduit à sa plus simple expression. Et puis, tout l'évangile, tout le ministère public de Jésus, c'est-à-dire ces trois années à partir du baptême, c'est-à-dire du moment où il est sorti de la vie cachée, de l'anonymat dans lequel il avait été plongé pendant ces 30 années de vie cachée. À partir de ce moment-là, ces trois années sont une grande préparation, une grande tension vers le moment décisif, l'heure décisive qui est la mort et la résurrection du Christ. Voilà, tout est orienté vers cela. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment comme une grande lumière qui éclaire tous les autres passages de l'Évangile, et c'est peut-être pour ça, vous comprenez, que j'ai commencé par, d'une certaine manière, par la fin, par la finalité, parce que c'est elle qui éclaire tout le reste. Être chrétien, chers amis, être baptisé, c'est mourir au vieil homme, c'est mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. C'est descendre avec lui au tombeau pour en sortir. C'est se dépouiller, aussi vrai que le futur baptisé eh bien, se met entièrement nu, pour descendre au tombeau comme Jésus a été dépouillé. Et vous l'avez entendu, le jeune homme qui s'en va tout nu dans la nuit de Gethsémani, au moment où Jésus est dépouillé, se dépouille en même temps que lui. Ce jeune homme d'ailleurs qui cache sa nudité dans les arbres, comment ne pas y voir un écho d'un autre homme qui a caché sa nudité derrière un arbre, vous l'avez reconnu. C'est Adam, notre père à tous, qui après le péché, alors que Dieu s'approche dans le vent de la brise légère, se cache derrière l'arbre. Adam, où es-tu ? Je me suis caché parce que j'étais nu. Et qui t'a appris que tu étais nu ? Et vous connaissez la suite. La honte du péché, la honte de ce jeune homme qui était Adam, puisqu'il était au commencement de l'humanité, qui cache l'homme pécheur, eh bien, c'est la honte de Marc. C'est la honte qui est la nôtre. Nous nous cachons. Nous nous cachons derrière un faux habit. Nous nous cachons derrière le personnage avec lequel nous avons vécu. Eh bien, nous devons entrer dans cette état de vérité. Nous devons accepter d'être dépouillés. Nous devons accepter de renaître comme un enfant qui sort du sein maternel. Il sort nu. Dans le livre de Job, hein, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. » Vous connaissez peut-être cette phrase. Eh bien, Marc accepte, comme toute personne qui accepte de suivre le Christ et de descendre dans le baptême, il accepte de se sortir de derrière l'arbre derrière lequel il se cachait, de dépouiller l'habit de l'homme pécheur et pour se laisser pour suivre Jésus dans cette mort, accepter de mourir à son péché, accepter de mourir au mensonge derrière lequel trop souvent il cache sa honte, pour renaître, pour être touché par la miséricorde, pour renaître à une vie nouvelle avec le Christ et se laisser revêtir par lui de cette robe. Vous savez, cette robe, il faudrait Il faudrait faire toute une émission sur les habits. Pensez et songez évidemment à la belle parabole dans l'évangile de Saint-Luc, de l'enfant prodigue, de celui qui, ce jeune homme qui a quitté la maison du père, qui lui dit « donne-moi ma part d'héritage », d'une manière de dire « j'anticipe ta mort ». Et lorsqu'il revient tout honteux, en guenillé, ces guenilles qui sont le symbole de son péché, eh bien, son père dit voilà, « voilà qu'il était mort, il est revenu à la vie ». Revêtez-le de la plus belle, de la plus belle robe, cette robe baptismale que nous avons tous reçue. Vous voyez, chers amis, la première chose que je voudrais que, la grande lumière que je voudrais que vous receviez au début de ce parcours avec l'évangile de Saint-Marc, que je suis vraiment très heureux de faire, parce que vous avez compris, moi je ne suis pas un exégète, je suis un curé. J'accompagne des gens. Un certain nombre d'adultes vers le baptême, et toujours des gens qui veulent, à une étape ou une autre de leur vie, eh bien, se replonger dans la grâce du baptême. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous nous tournons vers Jésus, nous acceptons de mourir à nouveau pour revivre à cette vie nouvelle qui est la nôtre. Je vous citerai simplement Saint Paul aux Éphésiens, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres passages. Hein. Chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. « C'est en Jésus que vous avez été instruits pour vous dépouiller de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et pour être renouvelés dans l'esprit, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. » Vous avez compris qu'il s'agit de se dépouiller pour être revêtu. Se dépouiller de l'homme ancien, se dépouiller du vieil homme, nous dira saint Paul, se dépouiller de cet homme qui en nous ressemble beaucoup à notre père Adam, pour être revêtu de l'homme nouveau, de celui qui a accepté de prendre sur lui nos péchés. Nous verrons aussi l'importance du moment où Jésus est dépouillé, accepte de se mettre nu lui-même, pour être revêtu d'une nouvelle gloire, de celle que le Père lui donnera. Eh bien, la grande lumière que je vous propose d'accueillir aujourd'hui, c'est celle de votre baptême. Il y en a parmi vous qui se préparent peut-être au baptême, il y en a qui ne sont pas baptisés et qui s'interrogent, et la majorité d'entre vous, eh bien, vous avez reçu le baptême. Et l'évangile de Marc, eh bien, c'est prendre conscience de ce que nous avons vécu. C'est nous assimiler et prendre conscience de notre identité de baptisé. Revivre ce parcours de mort et de résurrection. Et à cette lumière, voyez le style même de l'évangile de Marc, dont je vous disais qu'il est un peu abrupt, eh bien c'est clair. Parce que chacun des événements finalement est historiquement assez peu détaillé, mais toujours tendu à l'extrême, comme si en chaque occasion, chaque acte, eh bien, il fallait quitter quelque chose pour entrer dans une nouvelle dimension. Je vais prendre un exemple tout simple et vous pourrez vous-même essayer de relire l'évangile à cette lumière-là. Tout au début de l'évangile, et nous reviendrons là-dessus, l'appel par Jésus, juste après son baptême, l'appel des premiers disciples. Alors, référez-vous par exemple à l'évangile de Jean, nous voyons qu'il y a plusieurs étapes dans cet appel. Et c'est ça qui est très beau, je dirais même psychologiquement, historiquement, Jésus apprivoise, il apprivoise ses disciples. Et dans un appel, il y a plusieurs étapes, comme lorsque nous nous convertissons, Jésus prend son temps, l'Esprit Saint travaille notre cœur, il y a des étapes. Et nous ne nous dépouillons pas en un instant de l'homme ancien pour passer à une nouvelle dimension. On le voit très bien d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean, il y a une première rencontre, la rencontre avec les cinq premiers disciples, Jean probablement, André, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Et puis par la suite, Jésus va s'adresser à certains d'entre eux et il va constituer le corps des douze apôtres. Et puis encore par la suite, il va les inviter à aller plus loin. Vous voyez, l'appel décisif, comme on dit, hein, quand on est appelé à la vie religieuse, ou l'appel décisif au moment du baptême, n'intervient qu'après un cheminement. Eh bien en fait, Marc, on a l'impression qu'il ne voit pas le cheminement et que tout se fait comme sur un coup de baguette magique en un instant. je me réfère au chapitre 1 de l'évangile de saint Marc. Donc il faut revenir un peu en arrière au verset 16. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Écoutez bien la suite. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque qui réparait les filets. Aussitôt, Jésus les appelait. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Vous voyez, on est un peu songeur quand on lit ça, parce qu'on se dit qu'ils ont de la chance quand même. Hein. Ils n'ont pas beaucoup hésité. On a l'impression que rien les retient. Alors, c'est vrai que qui a vécu la rencontre du Christ peut dire que nul ne m'a attiré de telle manière. Cela dit, notre histoire est l'histoire de notre réponse à l'appel, de nos résistances, de nos errances. Pensez au peuple d'Israël qui était appelé à traverser le désert, ce désert du Sinaï qu'on peut traverser en 15 jours et qu'ils ont mis 40 ans à traverser. Eh bien, c'est un peu l'histoire de nos vies. Marc, au contraire, nous dit que aussitôt, ils laissent tout sur place et ils le suivent. C'est-à-dire que c'est l'instant de la décision, ou c'est tout le processus de la décision, c'est-à-dire de la mort à notre vie d'avant pour entrer dans une vie nouvelle qui est comme concentrée. Vous savez, comme dans ces tragédies de l'âge classique, hein, les tragédies de Racine, par exemple, où il y a une unité de temps, une unité d'espace, une unité de lieu. Pourquoi ? Parce que on va essayer de concentrer toute la dramatique, toute l'action, la concentrer au maximum pour que la tension soit extrême et pour qu'on arrive à dégager l'essence même de l'action. L'essence même de l'action dans l'appel des apôtres, c'est eh bien, la réponse à l'appel. Pour répondre, il faut être attiré par le Christ, mais il faut laisser quelque chose. Vous avez vu que les apôtres vont laisser dans la barque leur père. Comme Abraham, quitte ton père, quitte ton pays, pour aller vers une terre que je te donnerai. On sait que pour Abraham, ça a mis du temps. Et bien là, tout est tendu sur cette question, on dirait. Lors du baptême, vous savez que le prêtre s'adresse aux futurs baptisés et leur dit, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous Satan, rejetez-vous le péché et rejetez-vous ce qui conduit au péché. Croyez-vous en Dieu le Père, croyez-vous en Dieu le Fils, croyez-vous en l'Esprit Saint. Dans certaines liturgies, au moment où le prêtre interroge les futurs baptisés, à ce moment-là, il tourne le dos à l'Orient, c'est-à-dire à la lumière. Et à chaque fois qu'ils répondent « je rejette le mal », eh bien, ils se retournent un peu. Se convertir, c'est se retourner. Et du coup, ils se tournent vers la lumière, jusqu'à lui faire face, c'est-à-dire jusqu'à être éclairé par cette lumière qui se lève et qui symbolise la lumière du Christ. Et ensuite, à chaque fois qu'on va les interroger en disant « croyez-vous en Dieu le Père ?», ils vont faire un pas en avant. Donc ça fait trois pas en avant jusqu'au bord de la piscine baptismale. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir se déshabiller, se plonger dans la piscine baptismale, et puis en ressortir revêtus de l'habit blanc qui symbolise cette vie nouvelle qui a été déposée en eux et dont ils sont revêtus. Vous comprenez qu'en fait, Marc a moins comme objectif de nous décrire comment le processus de la suite des... historiquement, hein, ce que nous voyons très bien chez les autres évangélistes, et en particulier chez saint Jean, les étapes, mais pour lui, son objectif est vraiment de concentrer sur cet événement, et bien quitter pour suivre. Chers amis, la question que nous pouvons nous poser, parce que le temps passe, mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui de quitter ? Et pour quelle vie ? Et peut-être qu'il faudrait poser la question à l'inverse. Il vaut mieux regarder ce vers quoi nous allons, nous laisser tirer par le Christ. Quel est le pas que Jésus m'invite à faire aujourd'hui, cette semaine ? Et à chaque pas, eh bien, il y a une avancée, c'est pour la vie. C'est pour aller vers le Christ ressuscité, mais à chaque pas, nous acceptons avec lui parce qu'il l'a fait pour nous déjà. Christ a crucifié déjà le vieil homme, une fois pour toutes, nous dit saint Paul. Eh bien, nous acceptons de mourir concrètement à quelque chose. Nous acceptons avec Jésus de passer de la mort à la vie, de passer de cette vie à la vie véritable. Voilà pour cette présentation, et voilà, peut-être, j'espère que je vous ai convaincu dans cette enquête, hein, cette question, qui est ce mystérieux jeune homme ? Ce mystérieux jeune homme, oui, c'est Marc, sans doute, mais ce mystérieux jeune homme, cette mystérieuse jeune fille, eh bien, c'est chacun d'entre vous, c'est moi, si nous acceptons de suivre ce chemin, si nous acceptons de nous dépouiller avec Jésus pour entrer dans sa mort, accueillir sa mort et entrer dans sa vie, alors nous serons à la droite du tombeau pour les gens que nous rencontrerons, et nous pourrons, avec le jeune homme, comme lui, revêtu de notre manteau de lumière, annoncer aux hommes, mais il n'est pas mort, il n'est pas là, il est ressuscité. Voilà, chers amis, merci pour cette écoute, et puis que le Seigneur vous bénisse tous. Je ne suis pas sûr que le temps nous soit accordé pour aller beaucoup plus loin, mais je m'en remets à notre...
Voilà, Père, je crois que déjà nous avons pas mal à méditer, hein, sur ce que vous nous avez dit sur l'évangile selon saint Marc. Merci en tout cas, merci infiniment au Père Philippe de Maistre. Et donc pour la suite, on va vous retrouver le mois prochain, c'est le 9 octobre prochain à la même heure, hein, 16h05.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Au revoir, Père.